Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie. Livre 22e. Malheur de la France, joie forcée, séjour à ma vallée, réveil de la légitimité. 2. Le pape à Fontainebleau. 3. Défection, mort de Lagrange et de Delisle. 4. Bataille de Lutzen, de Bodzon et de Dresde, revers en Espagne. 5. Campagne de Saxe ou des poètes. 6. Bataille de Leipzig. Retour de Bonaparte à Paris. Traité de Valençay. 7. Le corps législatif convoqué puis ajourné. Les alliés passent le Rhin. Colère de Bonaparte. Premier jour de l'an de 1814. 8. Le pape mis en liberté. 9. Notes qui devinrent la brochure de Bonaparte et des Bourbons. Je prends un appartement rue de Rivoli, admirable campagne de France, 1814. 10. Je commence à imprimer ma brochure. Une note de Madame de Chateaubriand. 11. La guerre établie aux barrières de Paris. Vue de Paris. Combat de Belleville. Fuite de Marie-Louise et de la Régence. Monsieur de Talleyrand reste à Paris. 12. Proclamation du prince généralissime Schwarzenberg. Discours d'Alexandre. Capitulation de Paris. 13. Entrée des alliés dans Paris. 14. Bonaparte à Fontainebleau. La Régence à Blois. 15. Publication de ma brochure de Bonaparte et des Bourbons. 16. Le Sénat rend le décret de déchéance. 17. Hôtel de la rue Saint-Florentin. Monsieur de Talleyrand. 18. Adresse du gouvernement provisoire. Constitution proposée par le Sénat. 19. Arrivée du comte d'Artois. Abdication de Bonaparte à Fontainebleau. 20. Itinéraire de Napoléon à l'île d'Elbe. 21. Louis XVIII à Compiègne, son entrée à Paris, la vieille garde, faute irréparable, déclaration de Saint-Ouen, traité de Paris, la charte, départ des alliés. 22. Première année de la Restauration. 23. Est-ce aux royalistes qu'il faut s'en prendre de la Restauration? 24. Premier ministère, je publie les Réflexions politiques. Madame la Duchesse de Duras, je suis nommé ambassadeur en Suède. 25. Exhumation des restes de Louis XVI, 1er 21 janvier à Saint-Denis. 26. L'île d'Elbe. Chapitre 1. Malheur de la France, joie forcée, séjour à ma vallée, réveil de la légitimité. Lorsque Bonaparte arriva précédé de son bulletin, la consternation fut générale. On ne comptait dans l'Empire, dit M. de Ségur, que des hommes vieillis par le temps ou par la guerre et des enfants. Presque plus d'hommes faits. Où étaient-ils? Les pleurs des femmes, les cris des mères le disaient assez. Penchés laborieusement sur cette terre qui sans elle resterait inculte, elles maudissent la guerre en lui. Au retour de la Bérézina, il n'en fallut pas moins danser par ordre. C'est ce qu'on apprend des « souvenirs pour servir à l'histoire » de la reine Hortense. On fut contraint d'aller au bal, la mort dans le cœur, pleurant intérieurement ses parents ou ses amis. Tel était le déshonneur auquel le despotisme avait condamné la France. On voyait dans les salons ce que l'on rencontre dans les rues, des créatures se distrayant de leur vie en chantant leur misère pour divertir les passants. Depuis 3 ans, j'étais retiré à Aulnay. Sur mon coteau de pin, en 1811, j'avais suivi des yeux la comète qui, pendant la nuit, courait à l'horizon des bois. Elle était belle et triste, et comme une reine, elle traînait sur ses pas son long voile. Qui, l'étrangère égarée dans notre univers, cherchait-elle? À qui adressait-elle ses pas dans le désert du ciel? Le 23 octobre 1812, j'étai un moment à Paris, rue des Saints-Pères, à l'hôtel Lavalette, Madame Lavalette, mon hôtesse, la sourde, me vint réveiller, munie de son long cornet. « Monsieur, monsieur, Bonaparte est mort. Le général Mallet a tué Hulin. Toutes les autorités sont changées. La révolution est faite. » Bonaparte était si aimé que pendant quelques instants, Paris fut dans la joie, excepté les autorités burlesquement arrêtées. Un souffle avait presque jeté bas l'Empire. Évadé de prison à minuit, un soldat était maître du monde au point du jour. Un songe fut prêt d'emporter une réalité formidable. Les plus modérés disaient « Si Napoléon n'est pas mort, il reviendra corrigé par ses fautes et par ses revers. Il fera la paix avec l'Europe et le reste de nos enfants sera sauvé. » 2 heures après sa femme, M. Lavalette entra chez moi pour m'apprendre l'arrestation de Mallet. Il ne me cacha pas, c'était sa phrase coutumière, que tout était fini. Le jour et la nuit se firent au même moment. Je racontai comment Bonaparte reçut cette nouvelle dans un champ de neige près de Smolensk. Le Senatus Consulte, 12 janvier 1813, mit à la disposition de Napoléon revenu 250 000 hommes. L'inépuisable France vit sortir de son sang par ses blessures de nouveaux soldats. Alors, on entendit une voix, depuis longtemps oubliée. Quelques vieilles oreilles françaises crurent en reconnaître le son. C'était la voix de Louis XVIII. Elle s'élevait du fond de l'exil. Le frère de Louis XVI annonçait des principes à établir un jour dans une charte constitutionnelle. Premières espérances de liberté qui nous venaient de nos anciens rois. Alexandre, entré à Varsovie, adresse une proclamation à l'Europe. Si le Nord imite le sublime exemple qu'offrent les Castillans, le deuil du monde est fini. L'Europe, sur le point de devenir la proie d'un monstre, recouvrerait à la fois son indépendance et sa tranquillité, puisse enfin de ce colosse sanglant qui menaçait le continent de sa criminelle éternité ne restait qu'un long souvenir d'horreur et de pitié. Ce monstre, ce colosse sanglant qui menaçait le continent de sa criminelle éternité, était si peu instruit par l'infortune qu'à peine échappé aux Cosaques, il se jeta sur un vieillard qu'il retenait prisonnier. Chapitre 2. Le pape à Fontainebleau. Nous avons vu l'enlèvement du pape à Rome, son séjour à Savone, puis sa détention à Fontainebleau. La discorde s'était mise dans le sacré collège. Des cardinaux voulaient que le Saint-Père résistât pour le spirituel, et ils eurent ordre de ne porter que des bas noirs. Quelques-uns furent envoyés en exil dans les provinces, quelques chefs du clergé français enfermés à Vincennes. D'autres cardinaux opinaient à la soumission complète du pape. Ils conservèrent leurs bas rouges. C'était une seconde représentation des cierges de la Chandeleur. Lorsqu'à Fontainebleau, le pape obtenait quelque relâchement de l'obsession des cardinaux rouges, il se promenait seul dans les galeries de François Ier. Il y reconnaissait la trace des arts qui lui rappelait la ville sacrée, et de ses fenêtres, il voyait les pins que Louis XVI avait plantés en face des appartements sombres où Monald d'Eschki fut assassiné. De ce désert, comme Jésus, il pouvait prendre en pitié les royaumes de la terre. Le septuagénaire à moitié mort, que Bonaparte lui-même vint tourmenter, signa machinalement ce concordat de 1813, contre lequel il protesta bientôt après l'arrivée des cardinaux Paca et Consalvi. Lorsque Paca rejoignit le captif avec lequel il était parti de Rome, il s'imaginait trouver une grande foule autour de la geôle royale. Il ne rencontra dans les cours que de rares serviteurs et une sentinelle placée au haut de l'escalier en fer à cheval. Les fenêtres et les portes du palais étaient fermées. Dans la première antichambre des appartements était le cardinal Doria. Dans les autres salles se tenaient quelques évêques français. Paca fut introduit auprès de sa sainteté. Elle était debout, immobile, pâle, courbée, amaigrie, les yeux enfoncés dans la tête. Le cardinal lui dit qu'il avait hâté son voyage pour se jeter à ses pieds. Alors le pape, « Ces cardinaux nous ont entraînés à la table et nous ont fait signer. » Paca se retira à l'appartement qu'on lui avait préparé, confondu qu'il était de la solitude des demeures, du silence des yeux, de l'abattement des visages et du profond chagrin empreint sur le front du pape. Retourné auprès de sa sainteté, il « la trouva, c'est lui qui parle, dans un état digne de compassion et qui faisait craindre pour ses jours. Elle était anéantie par une tristesse inconsolable en parlant de ce qui était arrivé. Cette pensée de tourment l'empêchait de dormir et ne lui permettait de prendre de nourriture que ce qui suffisait pour ne pas consentir à mourir. « De cela, disait-elle, je mourrai fou comme Clément XIV. » Dans le secret de ces galeries déshabitées où la voix de Saint-Louis, de François Ier, de Henri IV et de Louis XIV ne se faisait plus entendre, le Saint-Père passa plusieurs jours à écrire la minute et la copie de la lettre qui devait être remise à l'empereur. Le cardinal Paca emportait caché dans sa robe le papier dangereux à mesure que le pape y ajoutait quelques lignes. L'ouvrage achevé, le pape le remit, le 24 mai 1813, au colonel Lagorce et le chargea de le porter à l'empereur. Il fit lire en même temps une allocution aux divers cardinaux qui se trouvaient près de lui. Il regarde comme nul le bref qu'il avait donné à Savone et le concordat du 25 janvier. « Béni soit le Seigneur, dit l'allocution, qui n'a pas éloigné de nous sa miséricorde. Il a bien voulu nous humilier par une salutaire confusion. À nous donc soit l'humiliation pour le bien de notre âme. À lui, dans tous les siècles, l'exaltation, l'honneur et la gloire. » Du palais de Fontainebleau, le 24 mars 1813. jamais plus belle ordonnance ne sortit de ce palais. La conscience du pape étant allégée, le visage du martyr devint serein. Son sourire et sa bouche retrouvèrent leur grâce et ses yeux le sommeil. Napoléon menaça d'abord de faire sauter la tête de dessus les épaules de quelques-uns des prêtres de Fontainebleau. Il pensa à se déclarer chef de la religion de l'État. Puis, retombant dans son naturel, il feignit de n'avoir rien su de la lettre du pape. Mais sa fortune décroissait. Le pape, sorti d'un ordre de pauvres moines, rentré par ses malheurs dans le sein de la foule, semblait avoir repris le grand rôle de tribun des peuples et donné le signal de la déposition de l'oppresseur des libertés publiques. Chapitre 3. Défection, mort de Lagrange et de Delisle. La mauvaise fortune amène les trahisons et ne les justifie pas. En mars 1813, la Prusse, à Caliche, s'allie avec la Russie. Le 3 mars, la Suède fait un traité avec le cabinet de Saint-James. Elle s'oblige à fournir 30 000 hommes. Hambourg est évacué par les Français. Berlin, occupé par les Cosaques. Dresde, pris par les Russes et les Prussiens. La défection de la Confédération du Rhin se prépare. L'Autriche adhère à l'alliance de la Russie et de la Prusse. La guerre se rouvre en Italie, où le prince Eugène s'est transporté. En Espagne, l'armée anglaise défait Joseph à Vitoria. Les tableaux dérobés aux églises et aux palais tombent dans l'Èbre. Je les avais vus à Madrid et à l'Escurial. Je les ai revus lorsqu'on les restaurait à Paris. Le flot et Napoléon avaient passé sur ses Murillo et ses Raphaël, Wellut Umbra. Wellington, s'avançant toujours, bat le maréchal Soult à Roncevaux. Nos grands souvenirs faisaient le fond des scènes de nos nouvelles destinées. Le 14 février, à l'ouverture du corps législatif, Bonaparte déclara qu'il avait toujours voulu la paix et qu'elle était nécessaire au monde. Ce mensonge ne lui réussissait plus. Du reste, dans la bouche de celui qui nous appelait ses « sujets », aucune sympathie pour les douleurs de la France. Bonaparte levait sur nous des souffrances, comme un tribut qui lui était dû. Le 3 avril, le Sénat conservateur ajoute 180 000 combattants à ceux qu'il a déjà alloués. Coupes extraordinaires d'hommes au milieu des coupes réglées. Le 10 avril enlève Lagrange. L'abbé de Lille expira quelques jours après. Si dans le ciel la noblesse du sentiment l'emporte sur la hauteur de la pensée, le chantre de la pitié est placé plus près du trône de Dieu que l'auteur de la théorie des fonctions analytiques. Bonaparte avait quitté Paris le 15 avril. Chapitre 4. Bataille de Lutzen, de Bautzen et de Dresde. Revers en Espagne. Les levées de 1812 se succédant s'étaient arrêtées en Saxe. Napoléon arrive. L'honneur du vieil Ostes expiré est remis à 200 000 conscrits qui se battent comme les grenadiers de Marengo. Le 2 mai, la bataille de Lutzen est gagnée. Bonaparte, dans ses nouveaux combats, n'emploie presque plus que l'artillerie. Entré dans Dresde, il dit aux habitants « Je n'ignore pas à quel transport vous vous êtes livrés lorsque l'empereur Alexandre et le roi de Prusse sont entrés dans vos murs. Nous voyons encore sur le pavé le fumier des fleurs que vos jeunes filles ont semé sur les pas des monarques. » Napoléon se souvenait-il des jeunes filles de Verdun? C'était du temps de ses belles années. À Bautzen, autre triomphe. mais où s'envolissent le général du génie Kirgener et Duroc, grand maréchal du palais. « Il y a une autre vie, » dit l'empereur à Duroc, « nous nous reverrons. » Duroc se souciait-il beaucoup de le revoir ? Le 26 et le 27 août, on s'aborde sur l'Elbe, dans des champs déjà fameux. Revenu de l'Amérique, après avoir vu Bernadotte à Stockholm et Alexandre à Prague, Moreau a les deux jambes emportées d'un boulet, à Dresde, à côté de l'empereur de Russie. Vieille habitude de la fortune napoléonienne. On a pris la mort du vainqueur de Hohenlinden dans le camp français, par un chien perdu, sur le collier duquel était écrit le nom du nouveau Turenne. L'animal, demeuré sans maître, courait au hasard parmi les morts. Teianitor Orki. Le prince de Suède, devenu généralissime de l'armée du nord de l'Allemagne, avait adressé, le 15 d'août, une proclamation à ses soldats. Soldats, le même sentiment qui guida les Français de 1792 et qui les porta à s'unir et à combattre les armées qui étaient sur leur territoire, doit diriger aujourd'hui votre valeur contre celui qui, après avoir envahi le sol qui vous a vu naître, enchaîne encore vos frères, vos femmes et vos enfants. Bonaparte, en courant la réprobation unanime, s'élançait contre la liberté qu'il attaquait de toutes parts, sous toutes les formes. Un senatus consulte du 28 août annule la déclaration d'un jury d'Anvers. Bien petite infraction, sans doute, aux droits des citoyens, après l'énormité d'arbitraire dont avait usé l'empereur. Mais il y a au fond des lois une sainte indépendance dont les cris sont entendus. Cette oppression d'un jury fit plus de bruit que les oppressions diverses dont la France était la victime. Enfin, au midi, l'ennemi avait touché notre sol. Les Anglais, obsession de Bonaparte et cause de presque toutes ses fautes, passèrent la Bidassoa le 7 octobre. Wellington, l'homme fatal, mit le premier le pied sur la terre de France. S'obstinant à rester en Saxe, malgré la prise de Vandamme en Bohême et la défaite de Ney près de Berlin par Bernadotte, Napoléon revint sur Dresde. Alors, le Landsturm se lève. Une guerre nationale, semblable à celle qui a délivré l'Espagne, s'organise. Chapitre 5. Campagne de Saxe ou des poètes. On a appelé les combats de 1813 la campagne de Saxe. Il serait mieux nommé la campagne de la jeune Allemagne ou des poètes. À quel désespoir Bonaparte ne nous avait-il pas réduits par son oppression, puisqu'en voyant couler notre sang, nous ne pouvons nous défendre d'un mouvement d'intérêt pour cette généreuse jeunesse saisissant l'épée au nom de l'indépendance. Chacun de ces combats était une protestation pour les droits des peuples. Dans une de ces proclamations, datée de Kalisch le 25 mars 1813, Alexandre appelait aux armes les populations de l'Allemagne, leur promettant, au nom de ses frères, les rois des institutions libres. Ce signal fit éclater la Burschenschaft, déjà secrètement formée. Les universités d'Allemagne s'ouvrirent. Elles mirent de côté la douleur pour ne songer qu'à la réparation de l'injure. Que les lamentations et les larmes soient courtes, la douleur et la tristesse longues, disaient les Germains d'autrefois. À la femme, il est décent de pleurer, à l'homme de se souvenir. Lamenta ac lacrimas quito, dolorem et tristissiam tarde ponunt. Feminis, lugere honestum est, viris, meminisse. Alors, la jeune Allemagne court à la délivrance de la patrie. Alors se pressèrent ces Germains, alliés de l'Empire, dont l'ancienne Rome se servit en guise d'armes et de javelots. Velut, tela, atque, arma. Le professeur Fichte faisait à Berlin, en 1813, une leçon sur le devoir. Il parla des calamités de l'Allemagne et termina sa leçon par ces paroles. Le cours sera donc suspendu jusqu'à la fin de la campagne. Nous le reprendrons dans notre patrie devenue libre, où nous serons morts pour reconquérir la liberté. Les jeunes auditeurs se lèvent en poussant des cris. Fichte descend de sa chaire, traverse la foule et va inscrire son nom sur les rôles d'un corps partant pour l'armée. Tout ce que Bonaparte avait méprisé et insulté lui devient péril. L'intelligence descend dans la lice contre la force brutale. Moscou est la torche à la lueur de laquelle la Germanie ceint son baudrier. « Aux armes !» s'écrie la muse. Le phénix de la Russie s'est élancé de son bûcher. Cette reine de Prusse, si faible et si belle, que Napoléon avait accablée de ses ingénéreux outrages, se transforme en une ombre implorante et implorée. Comme elle dort doucement, chantent les bardes. Ah, puisses-tu dormir jusqu'au jour où ton peuple lavera dans le sang la rouille de son épée? Éveille-toi alors, éveille-toi, sois l'ange de la liberté et de la vengeance. Koerner n'a qu'une crainte, celle de mourir en prose. Poésie, poésie, s'écrie-t-il, rends-moi la mort à la clarté du jour. Il compose au bivouac l'hymne de la lyre et de l'épée. Le cavalier. Dis-moi, ma bonne épée, l'épée de mon flanc, pourquoi l'éclair de ton regard est-il aujourd'hui si ardent? Tu me regardes d'un œil d'amour, ma bonne épée, l'épée qui fait ma joie. Hourra! L'épée. C'est que c'est un brave cavalier qui me porte. Voilà ce qui enflamme mon regard. C'est que je suis la force d'un homme libre. Voilà ce qui fait ma joie. Hourra! Le cavalier. Oui, mon épée, oui, je suis un homme libre et je t'aime du fond du cœur. Je t'aime comme si tu m'étais fiancée. Je t'aime comme une maîtresse chérie. L'épée. Et moi, je me suis donnée à toi ma vie, à toi mon âme d'acier. Ah, si nous sommes fiancés, quand me diras-tu « Viens, viens, ma maîtresse chérie ?» Ne croit-on pas entendre un de ces guerriers du Nord, un de ces hommes de batailles et de solitude, dont Saxo Grammaticus dit « Il tomba, rit et mourut. » Ce n'était point le froid enthousiasme d'un scalde en sûreté. Koerner avait l'épée au flanc. Beau, blond et jeune, Apollon à cheval, il chantait la nuit comme l'arabe sur sa selle. Son mawal, en chargeant l'ennemi, était accompagné du galop de son destrier. Blessé à Lutzen, il se traîna dans les bois, où des paysans le retrouvèrent. Il reparut et mourut aux plaines de Leipzig, à peine âgé de 25 ans. Il s'était échappé des bras d'une femme qu'il aimait et s'en allait dans tout ce que la vie a de délices. Les femmes se plaisent, disait Tirté, à contempler le jeune homme resplendissant et debout. Il n'est pas moins beau lorsqu'il tombe au premier rang. Les nouveaux Arminius, nourris à l'école de la Grèce, avaient un bardit général. Quand ces étudiants abandonnèrent la paisible retraite de la science pour les champs de bataille, les joies silencieuses de l'étude pour les périls bruyants de la guerre, Homère et les Nibelungen pour l'épée, qu'opposèrent-ils à notre hymne de sang, à notre cantique révolutionnaire? Ces strophes, pleines de l'affection religieuse et de la sincérité de la nature humaine. Quelle est la patrie de l'Allemand? Nommez-moi cette grande patrie. Aussi loin que résonne la langue allemande, aussi loin que des chants allemands se font entendre pour louer Dieu, là doit être la patrie de l'Allemand. La patrie de l'Allemand est le pays où le serrement de main suffit pour tout serment, où la bonne foi pure brille dans tous les regards, où l'affection siège brûlante dans tous les cœurs. Ô Dieu du ciel, abaisse tes regards sur nous et donne-nous cet esprit si pur, si vraiment allemand, pour que nous puissions vivre fidèles et bons. Là est la patrie de l'Allemand. Tout ce pays est sa patrie. Ses camarades de collège, maintenant compagnons d'armes, ne s'inscrivaient point dans ces ventes où des septembriseurs vouaient des assassinats aux poignards. Fidèles à la poésie de leurs rêveries, aux traditions de l'histoire, au culte du passé, ils firent d'un vieux château, d'une antique forêt, les asiles conservateurs de la Burschenschaft. La reine de Prusse était devenue leur patronne, en place de la reine des nuits. Du haut d'une colline, du milieu des ruines, les écoliers soldats, avec leur professeur capitaine, découvraient le faîte des salles de leur université chérie. Émus au souvenir de leur docte antiquité, attendris à la vue du sanctuaire de l'étude et des jeux de leur enfance, ils juraient d'affranchir leur pays, comme Melchtal, Fürst et Stauffacher prononcèrent leur triple serment à l'aspect des Alpes, par eux immortalisés, illustrés par elles. Le génie allemand a quelque chose de mystérieux. La Thécla de Schiller est encore la fille teutonne, douée de prescience et formée d'un élément divin. Les Allemands adorent aujourd'hui la liberté dans un vague indéfinissable, de même qu'autrefois ils appelaient Dieu le secret des bois, Deo rumque nominibus appellant secretum illud. L'homme, dont la vie était un dithyrambe en action, ne tomba que quand les poètes de la jeune Allemagne eurent chanté et pris le glaive contre leur rival Napoléon, le poète armé. Alexandre était digne d'avoir été le héros envoyé aux jeunes Allemands. Il partageait leurs sentiments élevés, et il était dans cette position de force qui rend possible les projets. Mais il se laissa effrayer de la terreur des monarques qui l'environnaient. Ces monarques ne tinrent point leurs promesses. Ils ne donnèrent point à leur peuple des institutions généreuses. Les enfants de la muse, flammes par qui les masses inertes des soldats avaient été animées, furent plongés dans des cachots en récompense de leur dévouement et de leur noble crédulité. Hélas, la génération qui rendit l'indépendance aux Teutons est évanouie. Il n'est demeuré en Germanie que de vieux cabinets usés. Ils appellent le plus haut qu'ils peuvent Napoléon un grand homme pour faire servir leur présente admiration d'excuse à leur bassesse passée. Dans le sot enthousiasme pour l'homme qui continue à aplatir les gouvernements après les avoir fouettés, à peine se souvient-on de Körner, Arminius, libérateur de la Germanie, dit Tacite, fut inconnu aux Grecs qui n'admirent qu'eux, peu célèbre chez les Romains qu'il avait vaincu. Mais des nations barbares le chantent encore, caniturque, barbaras, apud, gentes. Chapitre 6. Bataille de Leipzig. Retour de Bonaparte à Paris. Traité de Valençay. Le 18 et le 19 octobre se donna dans les champs de Leipzig ce combat que les Allemands ont appelé la bataille des nations. Vers la fin de la seconde journée, les Saxons et les Wurtembergeois passant du camp de Napoléon sous les drapeaux de Bernadotte, décidèrent le résultat de l'action. Victoire entachée de trahison. Le prince de Suède, l'empereur de Russie et le roi de Prusse pénètrent dans Leipzig à travers trois portes différentes. Napoléon, ayant éprouvé une perte immense, se retira. Comme il n'entendait rien aux retraites de sergents, ainsi qu'il l'avait dit, il fit sauter des ponts derrière lui. Le prince Poniatowski, blessé deux fois, se noie dans l'Ester. La Pologne s'abîma avec son dernier défenseur. Napoléon ne s'arrêta qu'à Erfurt. De là, son bulletin annonça que son armée, toujours victorieuse, arrivait comme une armée battue. Erfurt, peu de temps auparavant, avait vu Napoléon au fête de la prospérité. Enfin, les Bavarois, déserteurs après les autres d'une fortune abandonnée, essaient d'exterminer à Hanau le reste de nos soldats. Wrede est renversé par les seules gardes d'honneur. Quelques conscrits, déjà vétérans, lui passent sur le ventre. Ils sauvent Bonaparte et prennent position derrière le Rhin. Arrivé en fugitif à Mayence, Napoléon se retrouve à Saint-Cloud le 19 novembre. L'infatigable de Lacépède revient lui dire « Votre Majesté a tout surmonté ». Monsieur de Lacépède avait parlé convenablement des ovipares, mais il ne se pouvait tenir debout. La Hollande reprend son indépendance et rappelle le prince d'Orange. Le 1er décembre, les puissances alliées déclarent qu'elles ne font point la guerre à la France, mais à l'empereur seul, ou plutôt à cette prépondérance qu'il a trop longtemps exercée hors des limites de son empire, pour le malheur de l'Europe et de la France. Quand on voit s'approcher le moment où nous allions être renfermés dans notre ancien territoire, on se demande à quoi donc avait servi le bouleversement de l'Europe et le massacre de tant de millions d'hommes. Le temps nous engloutit et continue tranquillement son cours. Par le traité de Valençay du 11 décembre, le misérable Ferdinand VII est renvoyé à Madrid. Ainsi se termina obscurément, à la hâte, cette criminelle entreprise d'Espagne, première cause de la perte de Napoléon. On peut toujours aller au mal, on peut toujours tuer un peuple ou un roi, mais le retour est difficile. Jacques Clément raccommodait ses sandales pour le voyage de Saint-Cloud. Ses confrères lui demandèrent en riant combien son ouvrage durerait. « Assez pour le chemin que j'ai à faire, » répondit-il. « Je dois aller, non revenir. »